Voilà, je vous invite à encore un moment de prière pour demander l'éclairage de l'Esprit Saint sur votre méditation. C'est vrai, Seigneur, comme chaque dimanche, au moment d'ouvrir ta parole, nous demandons ton Esprit qui nous éclaire, qui illumine cette réflexion, cette prédication, pour une compréhension tout simplement, pour une bonne compréhension de ta parole, mais également, Seigneur, pour que cette parole produise les fruits que tu as prévu qu'elle produise, pour que nous recevions vraiment un message, pour que nous soyons un petit peu changés. Nous avons besoin de changer, que nous ne soyons plus après comme nous étions avant, mais avec quelque chose, un trésor de plus dans le cœur, un trésor qui vient de toi. Alors oui, Seigneur, c'est une prière de confiance que nous te faisons pour que tu nous éclaires par ta parole. Amen.
Amen.
Le texte du jour se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 18. Il nous est proposé donc au chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu 18, 21. Ah, alors décidément, les deux trafiquants. On va attendre. Bah, s'il n'y a pas de trafiquants. Hein. Oui, les tracteurs électriques, c'est pas encore. Voilà. Alors, nous lisons. Alors Pierre s'approcha et dit à Jésus : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et de payer sa dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant : Paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, disant : Prends patience envers moi et je te paierai. Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors ce texte, manifestement, il oriente nos pensées, nos réflexions vers le pardon. Le pardon. Encore que il ne s'agit pas tellement de pardon, il s'agit de remise de dette dans l'histoire. Hein. Donc le serviteur impitoyable, dit impitoyable, se fait remettre sa dette, il aurait dû remettre la dette. Mais dans le fond, le pardon, c'est bien une remise de dette. Quelqu'un qui m'a offensé, il y a une dette lourde envers moi, et si je lui pardonne, je lui remets sa dette. Bon. Mais pour tout vous dire, j'avais vraiment pas envie de vous parler du pardon. Bon, c'était pas mon jour, le pardon, une autre fois, puis c'est vrai qu'on a ça. Non pas que je sois dur à... rétif à pardonner, mais pas d'inspiration. Et par contre, dans ce texte, j'ai trouvé un autre aspect que je voudrais vous partager. Alors cet aspect, je vous en ai déjà donné quelques mots, puisque c'est le fil conducteur de notre culte, c'est ce lien étroit qu'il y a entre la relation qu'on peut avoir avec Dieu et la relation qu'on a avec les autres. Une interaction, vous voyez, entre ces deux relations. Alors on peut commencer déjà, parce que je vais vous lire quelques textes comme ça, qui évoquent ce sujet. Mais déjà avec celui qu'on vient de lire, il y a une matière intéressante à réflexion, parce qu'on voit que au départ, la relation entre le roi, puisqu'il s'agit d'un roi, hein, et ce serviteur impitoyable, elle est exécrable. Elle est exécrable. D'ailleurs, le roi dit, bon, allez, qu'on le mette en prison. Et puis, l'autre se jette à ses pieds. Le roi prend compassion. Il a beaucoup de compassion, hein, parce que, je vous dis tout de suite, 10 000 talents, pour l'époque, 10 000 talents, ça correspond à une somme inimaginable que même un roi aurait eu du mal à rassembler. C'est-à-dire une somme astronomique.
Colossale.
Donc, la situation, elle est tendue entre le roi. Et puis, le roi prend compassion et d'un seul coup, la relation est plutôt bonne. Hein. Compassion, donc c'est un sentiment, évidemment, de bienveillance envers son serviteur. Là-dessus, le serviteur lui-même, serviteur impitoyable, se comporte très mal vis-à-vis d'un de ses débiteurs qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, c'est 3 mois de travail pour un ouvrier. Hein. Je me suis renseigné. Bon, donc, pas grand-chose. Et de nouveau, la relation entre le roi et le serviteur impitoyable se retrouve désastreuse. Vous voyez, la relation entre le roi et le serviteur, elle a varié en fonction de la relation qu'il y avait entre le serviteur et son débiteur. Est-ce que vous me suivez ? J'essaye d'être clair. Voilà. Alors, on se dit, tiens, c'est intéressant. Et il faut absolument remarquer une chose, c'est que le serviteur impitoyable, il aurait dû remettre sa dette à son débiteur, non pas pour que le roi lui remette sa dette à lui, mais parce que le roi lui avait remis sa dette à lui. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire, il a d'abord été gracié, hein, et à ce moment-là, il devait, lui, gracier son débiteur. Ça aurait été complètement différent s'il avait lui-même d'abord refusé la remise de dette à son débiteur, et après se retrouvant devant le roi lui aurait dit « Mais tu remets pas ta dette, moi non plus. » Voilà. On va avancer un petit peu, on va aller... Alors, est-ce que cette notion d'une relation entre l'homme et Dieu qui est dépendante de la relation que cet homme a avec ses semblables, est-ce qu'elle date de l'Évangile ? Est-ce qu'elle date du Nouveau Testament ? Eh bien, pas du tout. On voit que c'est une très vieille notion, puisque je vais vous lire un texte dans Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, très longtemps avant Jésus-Christ, qui illustre ce que je viens de vous dire. Alors, ça se trouve dans Ésaïe 58. On va le prendre à partir du verset 4. Ésaïe 58, 4. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise ? Un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ce qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, etc., etc. Alors, vous avez remarqué que... Alors, le jeûne, il est question du jeûne. On utilise parfois ce texte dans certaines liturgies où on parle du culte. Voici le culte auquel je prends plaisir. Et en fait, c'est ça, parce que le jeûne, qu'est-ce que les autres en ont à faire, le jeûne ? C'est vis-à-vis de Dieu qu'on s'offre un jour de... On se donne un jour de jeûne vis-à-vis de Dieu pour lui être agréable. Voilà. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ton jeûne ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes contritions, tes souffrances, tes offrandes. Point, voilà, voilà le culte que tu dois me rendre qui me fait plaisir. Et là, Dieu donne toute une liste qui renvoie à l'autre. Partage ton pain à celui qui a faim, ramène le pauvre à la maison, le pauvre sans abri. S'il est nu, couvre-le, etc., etc. Donc vous voyez que c'est une notion très ancienne. Le culte, la relation que Dieu trouve agréable, c'est celle qui est dépendante de la relation qu'on a avec l'autre, le prochain. Bon, alors là-dessus, je vais aller vous lire maintenant dans l'évangile de Marc, chapitre 7, Jésus est confronté aux pharisiens. Alors on est un peu dans le même esprit que Ésaïe, hein. C'est-à-dire les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus qu'ils ne se sont pas lavés les mains rituellement, qu'ils ne respectent pas tout ce qui est dans la loi de Moïse, mais enfin, entre autres, tel et tel détail. Alors, Marc 7, verset 6, « Jésus leur répondit, « Ésaïe a bien profité sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » C'est en vain qu'ils me rendent en culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Et poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, eh bien dans ce cas, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Petit souci de traduction, parce que la syntaxe, elle n'est pas respectée là, mais peu importe, vous avez compris, vous, hein, quelqu'un qui dirait, ah ben j'aurais pu t'assister à son père, à sa mère, mais j'ai promis cette somme à Dieu. Et à ce moment-là, celui qui dit ça, il détruit le commandement de Moïse qui dit « Honore ton père et ta mère ». Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée et vous faites bien d'autres choses semblables. Donc là, Jésus, eh bien, il s'appuie sur Ésaïe, une fois de plus, sur l'Ancien Testament, pour rappeler que la vraie obéissance à la vraie loi de Dieu, c'est celle qui exerce la compassion, la bienveillance envers le prochain. Et à commencer par le très prochain, c'est-à-dire son père et sa mère, ou ses enfants, parce que, bien sûr. Hein. Donc là, c'est un exemple. Intéressant. Alors, on va encore creuser un petit peu. On peut aller voir, par exemple, dans... Il y a un texte qui est tout à fait caractéristique. Si j'arrive à le retrouver, ce sera pas mal. Alors c'est un texte que dont on ne va même pas nous le dire, on l'a lu dimanche dernier. Denis nous a lu ce texte. C'est dans... C'est dans la Bible. C'est ce texte qui... Alors il était question des brebis et des boucs. Et Jésus... dit, bon, il va mettre les brebis d'un côté et les boucs de l'autre au jugement dernier, et pour appuyer son jugement, il va dire à ceux qui, aux brebis, c'est-à-dire ceux qui se sont sauvés, il va dire, quand j'étais nu, vous m'avez couvert, quand j'avais faim, vous m'avez nourri, quand j'avais soif, vous m'avez abreuvé, etc., etc. Et aux autres, il va dire au contraire, et j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné de pain, etc., etc. Et chacun va dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a rencontré avec tel problème et qu'on ne t'a pas apporté du secours? Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire? Aux uns comme aux autres, il va dire, tout ce que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. C'est ce que nous a lu Denis. C'est que je retrouve la référence. C'est Matthieu 25. Denis est une encyclopédie vivante. Matthieu 25. Bon, de toute façon, vous pourrez le relire chez vous, Matthieu 25. C'est un très grand chapitre. Voilà. Alors, on retrouve cette notion de dire... quand Jésus dit à l'un de ses petits, de qui parle-t-il? c'est pas quelqu'un qui ferait mettre 20 les bras levés, hein. Donc c'est quelqu'un qui est en souffrance. Il est petit parce qu'il a un problème, il a un manque, il a un souci. Et vous pouvez faire quelque chose pour lui. Hein, on est d'accord. Et donc chaque fois que vous avez raté une occasion de venir au sens secours, ça peut être aussi un secours spirituel, moral, à l'un de ces petits, eh bien c'est comme si vous m'aviez laissé, moi Jésus, crever au bord du chemin, excusez-moi l'expression. Ou inversement, chaque fois que vous avez porté secours, que vous avez été, que vous vous êtes fait le prochain d'un frère en souffrance, eh bien c'est comme si c'était à moi que vous avez été adressé et à moi que vous avez soulagé une souffrance. Intéressant. Une fois de plus, on voit que la relation, donc cette fois-ci avec Jésus-Christ, elle passe systématiquement par le prochain. À tel point que j'ai presque envie de vous dire, vous savez, la notion d'ermite. Vous savez ce que c'est qu'un ermite? C'est quelqu'un qui ne veut plus voir personne, qui s'isole complètement, qui va au sommet d'une montagne, dans une grotte, etc. Hein, pour être en relation avec Dieu. Non, moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une notion biblique pour moi. Être ermite, vouloir être 100% consacré à Dieu en se détachant des hommes, ce n'est pas une notion biblique d'après ce que je lis. Alors, il y en a un qui a synthétisé tout ça, c'est Jacques, dans son épître. Vous savez que Jacques, c'est un petit peu, on pourrait intituler l'épître de Jacques, la vie chrétienne, mode d'emploi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'épître pratique. Vous avez la foi, vous avez reçu l'Évangile, comment vous allez la vivre pratiquement? Alors là, dès le premier chapitre, il y a des choses intéressantes. C'est le deuxième chapitre, dans ce sujet qui nous intéresse. Donc chapitre 2, verset 14, dans l'épître de Jacques. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Alors là, ça mérite explication, hein, attention. Etc. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée, etc., etc. Et il termine le chapitre. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors on se dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que Paul, l'apôtre Paul, à longueur d'épître, il nous a expliqué que tout ce que nous faisons ne nous fait les bonnes œuvres. La bienveillance envers le prochain, les belles prières envers Dieu, tout ce que nous faisons de vraiment positivement bon ne nous fait pas avancer d'un centimètre vers le royaume des cieux. Ce qui nous fait entrer dans le royaume des cieux, c'est tout simplement à 100%, je ne dis pas 99,9%, mais à 100% la grâce de Dieu acquise par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors il nous a bien persuadés, à longueur d'épître, de tout ça. Et puis voilà que Jacques arrive et dit quand même les œuvres, s'il n'y a pas les œuvres, c'est cuit. En fait, ils parlent de la même chose, sauf qu'ils prennent chacun par l'autre bout. Jacques veut tout simplement dire que les œuvres sont une conséquence de la foi. Qu'elles sont, les œuvres qui sont visibles, elles sont révélatrices de la foi qui est dans le cœur des hommes. C'est pas du tout la même chose. Il n'est pas en train de nous dire, nous achetons, nous gagnons notre salut, notre ciel, par les œuvres. Et alors, effectivement, ben, les œuvres, elles sont tournées vers qui? Vers le prochain. Vers le prochain. Alors, il ramène, la relation à Dieu, il la ramène carrément à la foi. Hein, la foi. La foi, c'est effectivement, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et bien, cette relation, elle est déclarée par Jacques, elle est déclarée morte, sans valeur, sans consistance, si derrière les œuvres ne suivent pas. Parce que ça veut dire quoi, si les œuvres ne suivent pas? C'est que la foi, elle n'est que théorique, elle n'est pas concrète. Là aussi, vous m'avez suivi. C'est parfois subtil, hein, la Bible. Il faut creuser, il faut faire marcher les petites cellules grises. Alors, la synthèse de tout ça, on l'a compris, c'est que c'est vrai que vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ même, il a été parmi nous sur terre, mais maintenant, bon, on sait qu'il est retourné auprès du Père. Alors, bien sûr, il est en nous et nous sommes en lui. C'est-à-dire qu'il est absolument présent, mais pas physiquement. Et comment voulez-vous aimer concrètement, pratiquement, comment voulez-vous être au service de Jésus-Christ, vu qu'il n'est que spirituellement parmi nous? Ah ben si, moi je vous donne la réponse, c'est possible, en nous tournant vers les autres. Et c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne, c'est ce que Dieu nous enseigne depuis le début de l'aventure humaine, hein, c'est à être tourné vers les autres, à être bienveillant, à aimer, à servir les autres. Et voilà la seule façon que nous avons vraiment de servir le Seigneur. La seule façon, et j'ai pas peur du mot seul, la seule façon que nous avons de servir le Seigneur, c'est en nous tournant vers les autres. Alors on peut se tourner vers Dieu, bien sûr, pour la louange, pour prier, pour nous confier, mais on n'est pas dans le service, on n'est pas dans, comment dire, oui, on n'est pas dans les œuvres. Les œuvres, c'est toujours vis-à-vis du prochain. Voilà un petit peu ce que cet ensemble de textes nous disent, et je reviendrai volontiers au tout premier texte, l'histoire du serviteur impitoyable, pour rappeler que c'est ça, cet aspect important du texte, c'est qu'il y a une antériorité de la grâce de Dieu par rapport aux œuvres qu'on peut produire. Vous vous souvenez, donc, le serviteur impitoyable qui aurait dû pardonner parce que lui-même avait été préalablement pardonné, on lui avait remis sa dette, et bien de la même façon, nous n'allons pas nous tourner vers le prochain et multiplier les œuvres pour être sauvés, mais parce que nous avons été sauvés. Et j'insiste sur le fait de dire que cette grâce qui nous a été offerte, elle nous l'a été offerte il y a 2000 ans. On n'était pas nés, pas conçus. 2000 ans. Sur la croix. Oui, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là. Je vais pratiquer les œuvres à aucun moment dans l'idée d'acheter mon salut, à aucun moment, mais parce que le Seigneur m'a offert son salut par sa grâce. Amen.